France Culture, la série musicale, Zoé Sfez.
I remember my first encounter with Furalina.
Je me souviens de ma première rencontre avec Furalina. En peut-être 10 secondes, on réalise que l'on est dans un océan d'une autre planète. Et c'est un nouveau monde que l'on veut explorer. Ça produit un effet hypnotique sur vous.
I think Arvo's music is eternal.
Je crois que la musique d'Arvo Pärt est éternelle. Et elle va vivre certainement pour toujours, aussi longtemps que le genre humain existera.
It's so beautiful and so
elle est si belle, si pure, si dimensionnelle.
I think
je crois qu'il est facile de s'y connecter. Et en ce sens, Arvo Pärt est hors de portée. Il est immense.
France Culture.
La série musicale
Zoé Sfez. Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les récits, de tous les portraits qui vous emmènent à la découverte de répertoires d'artistes que parfois vous chérissez, que parfois vous ne connaissez que trop peu, des artistes oubliés ou des artistes immenses qui sont partout mais dont le mystère parfois nous échappe. Une heure de radio pour écouter ensemble de la musique. C'est la série musicale, bienvenue. Il est le compositeur vivant le plus joué au monde. Une suprématie qui, on s'en doute un peu quand on connaît un tout petit peu l'homme qu'il est, ne doit pas l'ébranler beaucoup. Tant son humilité est aussi légendaire que son génie et sa parole rare. Il s'appelle Arvo Pärt et à l'image du petit pays où il est né et où il coule aujourd'hui de vieux jours après un long exil, l'Estonie, donc, qui le fait à grand renfort de concerts, festivals et nouveaux disques, il aura connu de violents tourments intérieurs avant, à près de 40 ans, trouver sa voix, son style, un style qu'il invente, le Tintinnabuli, une musique qui laisse une large place au silence, aux inconnus de la vie, de Dieu, qui parle de consolation et ne ressemble à rien de connu, une espèce de tabula rasa musicale qui a fait paradoxalement grand bruit dans les années 70. Il a aujourd'hui donc 90 ans, Arvo Pärt, et son mystère perdure. Comment la voix de cet Estonien converti à l'orthodoxie dans un siècle qui n'a fait que se séculariser peut-il parler à tant de gens? Comment ce compositeur qui parle si peu, la plupart du temps en maxime, presque en haïku, et quasiment jamais d'ailleurs de ses méthodes de composition, a-t-il su créer un langage universel, un langage que vous connaissez forcément, même si vous ne connaissez pas tout à fait son nom, car il a été repris énormément au cinéma et par des cinéastes qui se posent la question du médium, comme Jean-Luc Godard, Gus Van Sant ou Sorrentino. L'omniprésence d'Arvo Pärt nous laisse toujours dans une forme de questionnement. Comment cette musique, qui laisse tant de place au silence, fonctionne-t-elle si bien dans un monde si bruyant? Pas nécessairement de réponse, mais un portrait, une esquisse dans la série musicale, toujours évidemment subjective et jamais exhaustive.
Thank you.
tabula rasa, faire table rase. Darvo Part dit qu'il est une pièce qu'il faut regarder comme une forêt, des arbres qui chacun ont une identité, mais qui forment un tout sur plusieurs plans. Darvo Part, certainement, vous connaissez ceci.
On minu sõber, kõike mõistev, kaasa tundev.
La musique est mon ami.
Lohutaja.
Elle est compréhensive, empathique.
Kurbuse pisarate kuivetamise
rätik. Elle pardonne, elle réconforte.
Õnne pisarate allikas.
C'est un mouchoir qui essuie les larmes de tristesse.
Ja lend.
Une source de larmes de joie.
Valuline okas. Ihus.
Une libération.
Ja hinges.
Un envol. Mais c'est aussi une épine douloureuse plantée dans la chair et dans l'âme. Arvo Pärt, l'une de ses rares prises de parole qu'il a écrites dans un documentaire qui lui est entièrement consacré, prise de parole, comme vous l'aurez entendu, extrêmement poétique, mystérieuse, à l'image d'un Arvo Pärt qui parle très peu de cette musique qu'il compose depuis bientôt. Alors comme il a 90 ans et qu'il a commencé tout jeune sur le piano de ses parents, cela fait presque autant de temps, 85 ans, que la musique est l'ami de cet homme qui est né à Paidé, une petite ville au sud-est de la capitale, Tallinn. Tallinn, c'est la capitale de ce pays, l'Estonie, qui vit sa première période d'indépendance alors qu'il naît, de parents qui sont très vite séparés. À 3 ans, il va déménager dans le nord-est du pays. Un endroit où se trouve un petit piano. Un piano à queue, extrêmement mal en point, dont seuls les registres extrêmes, c'est-à-dire les notes très hautes et les notes très basses, fonctionnent. C'est sa première approche de la musique. Et la légende veut donc qu'elle ait été de facto très expérimentale, puisqu'il lui manquait le registre principal, déjà des stratégies de contournement et surtout une immense liberté. Un Vaupert qui, dans cette approche presque libérée de la musique, se nourrit d'à peu près tout ce qu'il trouve, ce vieux piano donc, bien sûr, mais aussi les concerts symphoniques qu'on diffuse en ville, dans les haut-parleurs. Il va les écouter à vélo pour pouvoir profiter de toute la symphonie sans jamais éveiller les soupçons, puisqu'assez vite l'Estonie devient un pays soviétique avec une vraie chape de plomb. Il capte aussi, en grugeant, les programmes de musique classique de la radio finlandaise, puisqu'on est juste en face, hein, dans le nord de l'Estonie, sur la côte, juste en face de la Finlande. Il arrive à les capter. Il y découvre, par exemple, évidemment, un compositeur baroque sur lequel il travaillera tout au long de sa vie, avec lequel il sera toujours en dialogue. C'est évidemment Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach, qui est un interlocuteur, encore presque aujourd'hui, pourrait-on dire, d'Arvo Pärt. On va vous donner à entendre ici un des morceaux avec lequel il a le plus dialogué, dans une version arrangée, transcrite au piano. C'est évidemment un extrait de La Passion selon Saint Jean, Herr unser Herrscher, un arrangement pour chœur et piano interprété par Alexandre Tarot. On a choisi cet enregistrement tant évidemment Bach, dans l'humilité de ce piano seul, nous dit beaucoup de choses de cette oreille d'Arvo Pärt. Un bac intéressant, un bac au piano, qui nous, évidemment, nous crée des parallèles avec cette œuvre si célèbre aujourd'hui d'Arvo Pärt. Cette musique pleine de silence, cette musique qui invente le style dit Tintinnabuli, un style sur lequel on va revenir, qui n'était pas du tout ce que le jeune Arvo Pärt commence à jouer et à écrire. Car Arvo Pärt est donc cet homme qui apprend la musique, pas en autodidacte, mais qui, d'une certaine manière, dans cette Estonie où le climat politique est très lourd, s'initie à un peu tout. Il joue du piano, bien sûr, mais pratique aussi le hautbois, les percussions. Il s'inscrit à un groupe de danse, hein, c'est les fameux groupes de danse soviétiques et folkloriques. Et il découvre, il est imprégné, d'une part, et c'est vraiment un décor très formateur, de l'immense nature estonienne, une nature à la fois calme, cette côte sur laquelle il grandit, une côte pleine d'immensité, mais il est aussi récipiendaire, qu'on le veuille ou non, de cette tradition très hybride estonienne qui à la fois a vécu une époque pré-chrétienne avec des chants finnois, avec une tradition chorale hyper importante, avant évidemment d'être soumis à l'influence nordique d'abord, puis totalement soviétique. Progressivement, Arvo Pärt va commencer, passer des improvisations à des compositions plus formelles, mais ça reste intéressant que ses premières compositions soient des improvisations, et partir à la capitale en 54 pour apprendre la musique. Il va étudier la théorie musicale, la composition, le piano, un enseignement extrêmement touffu et rigoureux, comme les pays soviétiques savent évidemment en donner. Il part lors d'un service militaire obligatoire et s'entraîne à la caisse claire, joue du hautbois dans la fanfare. Ça vous donne une idée hein, de toute la foule de dialogues et de langages musicaux qu'il maîtrise et qu'il vit. Néanmoins, Arvo Pärt est malade, il tombe malade pendant ce fameux service militaire, une maladie rénale qui va beaucoup, beaucoup le toucher, lui faire très peur, et entame, en 56, un enseignement très important, un enseignement qui va le soumettre à l'école secondaire de musique de Tallinn, à tout ce qui se passe dans la musique occidentale dans ces années 50. Il va devenir un grand fan de la musique dodécaphonique et de la musique sérielle. Toutes ses premières œuvres sont une espèce de dualité assez étrange. D'une part, il va beaucoup écrire pour le cinéma estonien, des partitions dont il n'est pas si fier, mais qui sont devenues assez mythiques dans le pays. Hein. C'est de la musique populaire bien faite. Et d'autre part, toute une série d'œuvres, d'innovations, qui sont clairement de la musique néoclassique et sérielle. Il s'inscrit dans ce que fait la musique occidentale, c'est-à-dire à peu près tout déconstruire, pour parler de Bach, l'une de ses œuvres les plus intéressantes de jeunesse. C'est ce collage sur Bach, écoutez. On aime cette expérimentation. Si vous êtes fan de musique sérielle, vous pouvez vraiment vous jeter à corps perdu dans la première partie de l'œuvre d'Arvo Pärt, qui est vraiment une manière pour ce jeune compositeur de s'inscrire dans la modernité telle qu'il l'entend à l'époque, puisque on est vraiment sur un collage qui, comme son titre l'indique, est une composition qui va utiliser plusieurs des nouvelles techniques de musique moderne sur le fameux motif Bach, vous savez, B-A-C-H. On a beaucoup parlé, y compris ici, de la manière dont Sébastien Bach code ses propres compositions avec ce fameux si bémol, la, do, si naturel, connu sous le terme de motif Bach. C'est évidemment un hommage, mais aussi une espèce de démonstration de force de ce que la musique occidentale et lui-même en tant que jeune compositeur veut faire à cet immense héritage de la musique, notamment baroque. On est sur un orchestre à cordes, hautbois, clavecin, piano, une exécution de 7 minutes 30, un peu comme un pavé dans la mare, mais qui en fait suit une logique qui est celle de la musique occidentale d'alors. Quand on repense à des œuvres qu'il écrira plus tard, une fois qu'il aura trouvé son style, notamment le Lamentate, on entend, on mesure l'écart, la grande crise que va connaître Arvo Pärt, qui très vite ne va pas comprendre exactement ce qu'il fait en tant que musicien. Je vous donne à entendre, en écho à la transcription pour piano, jouée par Alexandre Tarot, une autre transcription pour piano, c'est celle de Gorgis Osoukins, un très très bon pianiste qui a beaucoup à cœur de défendre la musique d'Arvo Pärt. À l'occasion de ce 90e anniversaire, il sort un album baptisé Pour Arvo, dans lequel, après avoir déjà exploré tout le répertoire pour piano, il transcrit beaucoup d'œuvres majeures, y compris ce Lamentate, qui est une œuvre beaucoup plus massive quand elle est jouée normalement ici au piano. Écoutez la fragilité, la délicatesse et le changement total d'ambiance. La très belle interprétation par Gorgis Osoukins de ce Lamentate fragile et conciliante. Lamentation fragile et conciliante, une forme d'humilité, de douceur avec ces notes comme des gouttes qui existent presque en elles-mêmes. Alors là, on est vraiment dans l'Arvo Pärt, deuxième et dernière partie. Mais le jeune Arvo Pärt qui s'est initié à la musique sérielle, qui écrit deux symphonies en mode musique sérielle, va très vite en fait choquer, puisque cette musique sérielle est considérée comme véritablement l'incarnation de la décadence bourgeoise dans une Estonie toujours soviétique. Il a un double problème, Arvo Pärt, c'est que dans la première partie de sa vie de compositeur, il est à la fois trop impressionné, trop prompt à justement essayer ce qui se fait dans le reste de l'Europe, ce qui ne plaît pas au pouvoir soviétique, mais de plus, lui qui, à l'instar de la plupart des Estoniens, est né dans une famille plutôt luthérienne, il a une grande crise mystique. On va bientôt y revenir, mais l'une de ses plus grandes rencontres va être celle de la musique grégorienne. En 1968, en proie à une immense crise créatrice, il va écrire un une œuvre importante, c'est un credo, une œuvre donc religieuse, créée à Tallinn par Neeme Järvi, qui est le père de Paavo Järvi, vous savez, cet immense chef d'orchestre estonien, qui va marquer évidemment beaucoup à l'époque, puisque c'est une œuvre très provocante, d'une part dans ce qu'elle dit, c'est de la musique sérielle, mais en plus c'est une œuvre religieuse dans un pays soviétique qui a beaucoup de mal avec la question religieuse. Après avoir été joué, ce credo va obliger Aavo Part à démissionner de l'Association des compositeurs estoniens et à quitter définitivement, croit-il, le pays avec femme et enfants. Il va quitter le pays avec 9 petites valises, une grande tristesse au cœur. Écoutons ce credo. C'est la dernière fois qu'Aavo Part écrit de la musique sérielle. Ce n'est absolument pas la dernière fois qu'il écrit de la musique religieuse. C'est surtout la dernière fois qu'il compose avant 10 années. Le credo 1968 de ce Arvo Pärt qui a déjà beaucoup brillé dans son pays en étant le premier à faire de la musique dodécaphonique. Un Arvo Pärt qui compose de la musique de film, qui a été ingénieur du son à la radio, mais qui en fait ne trouve pas sa voix. L'exécution, la présentation de cette œuvre en 68 par Järvi Le Père va faire scandale. Plus pour le sujet religieux que pour véritablement les audaces liées à ce que Shostakovich appelait les séductions du modernisme expérimental. C'est une énorme crise que va traverser Arvo Pärt. Il quitte son pays, il est par ailleurs toujours malade des reins. Il va vivre une crise créatrice qui va durer 10 ans. Après ce credo, il ne composera plus rien, quasiment, jusqu'en 76. En réalité, la composition de ce credo, vous entendez, on a cette rencontre entre un orchestre symphonique, un chœur et ce piano éminemment moderne, on le doit finalement à une rencontre déjà fondamentale que Arvo Pärt a déjà fait. Au début des années 60, il est un peu perdu dans le fond du pays, il fait du ski de fond et il tombe par hasard sur l'unique et seul monastère orthodoxe estonien, alors que le pays, je vous le rappelle, est essentiellement protestant. Écoutez quelqu'un qui l'a bien connu, Yanaik Tulve, qui est chef de chœur en Estonie, raconter la découverte par Arvo Pärt de la musique orthodoxe.
Quand il a ouvert la porte de cette église ici, il est entré pendant l'office de soir. On peut imaginer que c'était la première fois qu'il a entendu des moines la chanter. C'est une autre musique déjà et aussi un autre aspect des chanteurs, des chanteuses, parce que quand on donne des concerts, c'est pour le public. Et dans le monastère, les moniales, elles ne chantent jamais pour les hommes, mais pour Dieu. Donc je pense que c'est ça qui a frappé tout de suite Arvo.
Thank you.
Vous connaissez sans doute cette musique, on devrait en être très orgueilleux en France. Vous l'avez entendu notamment quand on a longuement parlé du répertoire de l'école dite de Notre-Dame. C'est Guillaume de Machaut et son Kyrie pour la messe de Notre-Dame que vous écoutez. C'est ce que va écouter compulsivement pendant près de 8 à 10 ans un Arvo Pärt qui a été complètement bouleversé par ce qu'il a entendu dans ce fameux monastère. Toute l'histoire d'une certaine manière de la musique occidentale et ses évolutions l'ont complètement finalement fatigué. Et c'est dans cette musique française et franco-flamande des 14e, 15e, 16e siècles, c'est-à-dire le chant grégorien, la base même de la musique occidentale, cette source que Arvo Pärt va se plonger. Il rejoint l'église orthodoxe, se convertit, sa santé s'améliore presque comme par miracle. Et il va renaître d'une certaine manière en 1976 avec un morceau devenu célébrissime, Für Aline, qui veut dire littéralement pour Aline. Alors l'anecdote, c'est que ce n'est pas un chant, contrairement à une musique tournée vers la religion ou Dieu, comme ce qu'écrit beaucoup Pärt avant et après. Cette espèce de moment très créateur, c'est la fille du couple d'un de ses amis qui a dû quitter sa mère pour aller vivre avec son père en dehors de l'Estonie, à l'image de bien des gens, pour que sa mère ne souffre pas. Arvo Pärt va écrire cette espèce de lettre musicale, un cri consolateur qui, à la fois, comme souvent chez Arvo, exprime autant la souffrance que la possibilité de sortir de cette souffrance. Lettre écrite non pas à Élise, la mère, mais bien à Alina, pour qu'elle revienne. Pour finalement qu'elle tisse, qu'elle garde ce lien si fort qui unit une mère à sa fille. Für Aline est comme un coup de semonce dans ce que la musique crée. On est en 76, c'est la même année que la création de Einstein on the Beach avec Philip Glass et Bob Wilson. Une espèce de nouvelle ère s'ouvre. Écoutez ici le pianiste Jörgi Sosokins que vous avez entendu tout à l'heure sur le Lamentate et qui consacre un très beau disque, on l'a dit, à Arvo Pärt pour ses 90 ans. Expliquez la première fois, racontez la première fois qu'il a entendu cette musique.
Für Aline, one of the
Für Aline,
most enigmatic pieces of
c'est une des musiques les plus énigmatiques d'Arvo Pärt. C'est le début de sa technique dite du Tintinnabuli. Et je me rappelle la première rencontre avec cette pièce. Allez, en quoi 10 secondes, on réalise qu'on est dans un océan, dans une autre planète. C'est un monde complètement nouveau qu'on a envie d'explorer. Ça produit immédiatement cet effet hypnotique sur nous. pour Aline. Un morceau que vous connaissez nécessairement, qui peut être joué entre 2 et 11 minutes, qui invente, Arvo Part, invente avec elle le fameux style tintinnabuli, qui veut dire en latin « petite cloche ». C'est dans cette pièce que j'ai découvert les séries d'accords parfaits, dont je fis ma règle très simple de fonctionnement, écrit Arvo Part, qui est, on l'entend, dans un vrai retour à la musique tonale, et qui s'inspire très concrètement du plein chant, le plein chant grégorien, celui des compositeurs médiévaux, polyphonique, pour tenter de décrire cette chose très simple qui consiste à parler d'un lien. Ce lien, il se traduit en musique par ce style diatonique où on alterne avec la main gauche trois notes seulement, et avec la main droite, des notes mélodiques, ce qui crée ces espèces de résonances qui évoquent, mais de manière plus métaphorique que réelle, le son de cloches qui sonneraient ensemble dans un accord parfait. Pour Alina est une forme de révolution. Alors évidemment, elle est reçue globalement très bien à l'Occident, un peu moins bien à l'Est. La puissance narrative d'un morceau aussi simple va bouleverser bien des gens qui, plus tard, quand Arvo Part quittera le pays dans les années 80, vont faire de lui une star hein, dès qu'il s'installe en Allemagne. Arvo Part et sa musique vont faire l'objet d'une véritable dévotion. C'est l'invention d'un style, l'invention d'une voix qui va être suivie très vite par toute une série de grands morceaux. Tabula Rasa en 77, Fratres ou Spiegel in Spiegel que vous avez entendu en ouverture. Écoutez ici un des rares échanges, une interview, car il en donne si peu, d'Arvo Part par la chanteuse islandaise Björk, qui dit souvent lui devoir beaucoup sur le changement de paradigme en réalité qu'a été pour elle, et pour sans doute une bonne partie de l'Europe, l'arrivée de ce style et la découverte de Fouralina.
I like your music very, very much.
Moi j'adore votre musique parce que vous donnez un espace à l'auditeur. Il peut entrer dans cet espace et y vivre. Alors que les musiques de notre temps vous forcent finalement à rester ici et à écouter. Mais peut-être que c'est parce que moi-même j'ai besoin d'espace, je crois. Même et surtout quand je travaille. Je crois que le son est un phénomène fascinant. Pourquoi est-ce qu'on aime autant la musique? Pourquoi on est tellement influencé par elle? J'ai l'impression que personne n'imagine à quel point la musique est forte, puissante. On peut tuer les gens avec de la musique, avec un son. Et si on peut tuer, alors aussi on peut créer un son qui fasse exactement l'inverse de tuer.
Opposite of killing.
Yeah.
And the distance between.
Mais en fait, la distance entre ces deux points est très ténue.
And you are free.
Vous êtes libre.
You can choose.
Vous pouvez choisir de faire l'un ou l'autre.
Everything is possible.
On peut tout faire en art.
But
mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui qui n'ont aucune nécessité.
Necessary. Thank you.
Fratresse, frère. Un morceau qui sort dans une version qui est devenue extrêmement célèbre. Une version où c'est Keith Jarrett au piano et Gideon Kremer au violoniste, au violon. Petite pièce structurée en 9 itérations mélodiques avec une voix principale qui joue un accord parfait mineur, la, do, mi. C'est une pièce qui fait autant allusion, qui s'inspire beaucoup du Coucou au fond des bois, qui est tiré du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, autant qu'à Benjamin Britten, le délicieux et très adoré compositeur britannique qui meurt en 76 et qu'Arvo Pärt vient de découvrir. Il est très touché, il va composer une autre œuvre qui sera jouée en même temps qu'Otus in Memoriam pour Benjamin Britten. Les deux sont présentés comme les deux faces d'une même pièce pour établir des liens aussi bien avec Saint-Saëns qu'avec Britten. Une pièce sur l'amitié, une pièce pour la perfection, vous connaissez forcément. Car à l'instar de Fouralina, elle a beaucoup, beaucoup, presque trop été reprise au cinéma. Pour Fratresse, vous les retrouvez évidemment des morceaux, en tout cas des plusieurs reprises des mesures dans There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, dans The Place Beyond the Pines, un des films très récents qui jouent beaucoup du cinéma américain. Quant à Fouralina, eh bien, vous l'avez autant retrouvé dans Mia Madre et de Nanni Moretti que dans In Memoriam sur la crise existentielle d'un novice jésuite et dans plusieurs films de Gus Van Sant. C'est comme si cette musique venue d'Estonie, profondément religieuse et mystique, arrivait à habiller avec une immense beauté, candeur, une intelligence les questions existentielles que se posent des cinéastes, des scénaristes dans les États-Unis si séculiers, si loin finalement de la vie très retirée et pleine de mystères que vit Arvo Pärt. C'est Terrence Malick, sans doute l'un des réalisateurs les plus habités par des grandes questions métaphysiques, qui utilisera le plus et qui popularisera le plus la musique d'Arvo Pärt. Cette musique qui a fonctionné quasiment chez tout le monde, pour tout le monde, comme une forme de révélation quand vous l'entendez pour la première fois. Elle ne peut que vous arrêter, comme ça a été le cas pour le musicien allemand Manfred Escher, qui raconte comment lui a découvert dans les années 80 la musique d'Arvo Pärt et ce que ça a produit chez lui.
I believe it was in 1980.
C'était en 1980. J'étais en train de conduire entre Stuttgart et Zurich. Et j'ai entendu à la radio de la musique que j'avais jamais entendue de ma vie. J'ai été obligée de quitter la route pour l'écouter. J'ai été obligée de me mettre sur une colline parce que ça n'arrêtait pas de couper. C'était une musique angélique. C'était tellement incroyable que je suis restée pendant une demi-heure tout seul sur cette colline à écouter cette musique. Il m'a fallu je ne sais plus combien de semaines pour essayer de comprendre ce que j'avais entendu et pour découvrir que c'était la musique d'un homme nommé Arvo Pärt. l'incroyable, la bouleversante, le bouleversant Contus in Memoriam de Benjamin Britten, un canon à cinq entrées avec sept cloches qui joue inlassablement le même motif, trois blanches pointées et trois mesures de silence. Le silence d'Arvo Pärt et tout ce que ce silence laisse exister. Ces œuvres sont suivies par un nombre fou de musiques religieuses qui pourtant sont écoutées par bien des profanes. On vous invite à redécouvrir les Lamentate, le De Profondis, le Miserere, toute une série de commandes qui accompagnent la vie de cet Arvo Pärt qui continuait à composer jusque dans les années 2000-2019. Arvo Pärt qui semble-t-il écrit pour vivre, parce que la musique est son amie et pour se consoler de cette humanité, la consolation est au centre de son œuvre, aussi bien quand il écrit de la musique religieuse que quand il écrit des ballades ou encore des berceuses, car il l'a beaucoup fait. Quittons-nous avec ces mots sur les larmes.
Ich weiß das nicht. Wenn Sie manchmal sehr unglücklich sind, dann können Sie weinen und dann werden Sie wieder glücklich. Die Tränen helfen und waschen.
Je ne sais pas. Quelquefois, quand on est très malheureux, on pleure et on redevient heureux. Les larmes sont une aide. Elles lavent.
Ich fühle mich sehr oft unsicher. Und ich bin auf der Suche etwas Stabileres. Und auf diesem Weg.
Je me sens très souvent pas suffisamment sûr de moi et je cherche quelque chose de plus stable. Ma musique est sur ce chemin-là. L'auditeur me suit. En me suivant, il fera avec moi ce trajet incertain. Il ressentira peut-être ce que je ressens.
L'une des très nombreuses et délicieuses berceuses écrites par Arvo Pärt. On vous invite à découvrir sa berceuse estonienne sur le disque que lui consacre Paavo Järvi, qui est sorti hier. C'est de ce credo-là que vous avez entendu, un credo donc joué par le fils de celui qui l'avait créé. On espère qu'Arvo Pärt et sa musique seront longtemps, longtemps avec nous. N'hésitez pas à écouter les Nuits de France Culture qui seront entièrement consacrées à Arvo Pärt avec des archives absolument exceptionnelles les 11 et 12 septembre pour son anniversaire. À la semaine prochaine.